Bienvenue sur Écoute Voyageuse. Je suis Corinne Delaunay et je vous emmène explorer la beauté des mondes, visibles et invisibles. Vous êtes prêts? Allez, on embarque! Cet épisode a été réalisé en partenariat avec Mama Édition.
Chez Mama Édition, nous publions depuis plus de 20 ans des livres audacieux. Parcours de vie aux frontières de l'extraordinaire, médecine alternative, témoignages, spiritualité, des ouvrages de référence pour aujourd'hui et pour demain.
Bonjour Laurent.
Bonjour Corinne.
Je suis avec Laurent Hugueli. Laurent Hugueli est un auteur prolifique. Il est publié chez Mama Édition et on va parler avec lui aujourd'hui de deux de ses livres, Mère, l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne et le manifeste paradisiaque qui vient de sortir, Jardinage, permaculture et spiritualité. J'ai trouvé que c'était bien d'actualité. Donc là, je te vois, tu es chez toi en Dordogne et je vois un hamac dans ton bureau. Comment ça se fait que tu as un hamac dans ton bureau ?
Alors, pour moi, le hamac est un outil de travail essentiel et je mets des hamacs partout chez moi. Donc, il n'y en a pas seulement au bureau, il y en a également à l'extérieur plusieurs, il y en a au salon, etc. Et parce que je pense que c'est une manière aussi de trouver l'inspiration très chamaniquement, en fait. C'est suite aux différents voyages que j'ai fait au Mexique, qui est un petit peu la patrie du hamac et l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, que cette culture du hamac est entrée chez moi jusqu'à mon bureau et jusqu'aux parties les plus, je dirais, personnelles et privées de ma vie, en fait. Il y a du hamac partout chez moi.
Et ça te permet de rentrer en méditation, de te laisser bercer, de te retrouver là-bas ?
Mais complètement. En fait, c'est un outil de travail vraiment. Hein. C'est-à-dire que lorsque j'ai des dilemmes à résoudre ou lorsque j'ai besoin de trouver de l'inspiration, je me mets dans mon hamac et je pars en rêverie, une simple rêverie durant laquelle je me laisse inspirer par l'air du temps, par ce qui se passe, par mon intériorité également. Donc, c'est vraiment pour moi essentiel d'avoir un hamac. Ça me fait rire. Ça fait partie de mon personnage, le hamac, je pense. Et j'en parle dans tous les livres. En plus, il y a toujours de quelques petites anecdotes liées au hamac. Également dans le Manifeste paradisiaque où je parle de jardinage et de hamac, c'est-à-dire contempler son jardin depuis son hamac, c'est quand même un grand plaisir.
Merci de nous faire rentrer dans ton intimité et tes astuces de méditation. Je voudrais revenir à ton parcours. Donc, tu es Suisse, tu es très lié à la nature, aux montagnes, tu es un montagnard. Comment tu en es venu à te retrouver en forêt amazonienne, en forêt lacandone au Chiapas? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu un voyageur et un voyageur spirituel?
Bien, en fait, j'ai toujours été passionné de nature. Lorsque j'étais enfant, c'était une passion dévorante. Je souhaitais devenir biologiste. En fait, les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de Noël, c'était toujours des livres sur les animaux, des livres sur la biologie, etc. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Et au moment de prendre une décision sur ma carrière ou sur mon futur, lorsque j'étais étudiant, j'ai commencé des études de biologie qui ont été très courtes parce que j'ai quitté l'amphithéâtre au bout de 24 heures. Voilà, c'est une petite anecdote. Donc, j'ai pas supporté l'ambiance et je suis allé ensuite étudier la philosophie, toujours avec cette idée de me rapprocher de la nature. Et je crois que ça a toujours été un petit peu le fil rouge de ma vie, le fait de vouloir fusionner ou le fait de vouloir communier avec la nature d'une manière peut-être spirituelle. Au départ, je recherchais cette communion peut-être plus intellectuellement ou plus à travers les livres, à travers la science. Et petit à petit, c'est à travers la spiritualité. Et c'est cette quête spirituelle qui m'a emmené ensuite à différents endroits sur Terre et en particulier en Amérique du Sud. Parce que l'Amérique du Sud m'attire profondément, parce qu'il y a la forêt vierge, et parce que, aussi pour des raisons, je dirais, un peu politiques, mon premier voyage au Mexique en l'an 2000, c'était pour assister en fait, les peuplades qui se faisaient mettre à mal par l'armée mexicaine. C'était la guerre civile dans le sud du Mexique, au Chiapas, justement. Donc, c'était un mélange d'humanitaire et de spiritualité qui m'a fait pour la première fois partir en solitaire dans la forêt.
La philosophie t'a amené à la spiritualité, l'humanitaire aussi. Tu es bouddhiste. Comment ça s'est passé, ces rencontres ?
En fait, c'est une série de rencontres, effectivement, une série d'étapes dans ma vie qui ont commencé vraiment à fleurir ou à éclore à l'époque où j'étais à la fin de mes études, encore étudiant. J'ai côtoyé à l'époque plusieurs cercles, en fait, des cercles un peu intellectuels, des cercles psychédéliques, des cercles liés au bouddhisme, etc. Enfin, j'étais plongé dans ces différents mondes et j'ai souhaité en faire ma vie. C'est-à-dire que j'ai dû, d'une certaine manière, trouver un moyen de retourner à la source de toutes ces traditions. Donc, le bouddhisme m'attirait, je suis parti en Inde. Le chamanisme m'attirait, je suis parti en Amérique du Sud. Et ce qui fait qu'il y a une période, suite à mes études, durant laquelle j'ai beaucoup voyagé pour partir à la rencontre de la racine ou de la source de ces spiritualités, tout en gardant en fait un pied dans le monde ordinaire, entre guillemets, c'est-à-dire en étant rédacteur et traducteur. Donc, j'avais vraiment un métier assez intellectuel. Mais petit à petit, disons qu'à force de côtoyer ces spiritualités, j'ai souhaité en faire ma vie, j'ai souhaité être dans le travail de guérison également, et dans le travail d'enseignement, et dans le travail de transmission. Et petit à petit, j'ai quitté mon travail dans le monde ordinaire, entre guillemets, et il n'y a plus que l'aspect extraordinaire qui est resté, avec l'envie également d'écrire des livres. Et c'est surtout les livres qui m'ont fait connaître, c'est-à-dire le chaman et le psy, notamment avec le psychiatre Olivier Chambon, qui a été pour moi vraiment le livre qui m'a fait connaître, et ces livres maintenant dont on parle, c'est-à-dire Mère, Fusion, etc.
Ton premier voyage a été les sources du Gange, ou non, ça a été plutôt le Mexique.
Oui, mon premier voyage en solitaire, ça a été cette expédition humanitaire dans le sud du Mexique. Je dis en solitaire parce que c'est la première fois que je quittais l'Europe tout seul. Et j'avais très peur de partir parce que je risquais d'une certaine manière ma vie aussi. Donc j'ai dû suivre une formation pour en fait passer les barrages militaires. C'était un petit peu un film de James Bond. Hein. J'avais une fausse identité, enfin vraiment, c'était Hollywood. Une fausse identité, des faux papiers pour passer les barrages, etc., pour pouvoir accéder à la jungle, parce que toute la région du sud du Mexique était en fait confinée militairement à l'époque. Et ce voyage, je l'ai fait parce qu'un ami à l'époque qui était très impliqué politiquement, qui était vraiment dans une démarche d'activiste, m'avait motivé à y aller. Voilà. Moi, je n'étais pas spécialement politisé, je voulais surtout faire cette expérience-là, je voulais surtout aller voir du pays. Et c'était aussi le fait de pouvoir accéder à une peuplade extrêmement isolée dans la jungle qui m'a attiré. Donc, disons que c'était plutôt un alibi, l'aspect politique. Et je suis parti, je me suis retrouvé seul au Mexique, je parlais très mal l'espagnol, j'ai dû apprendre sur le tas. Et ça reste pour moi le voyage qui a bouleversé ma vie, parce qu'au retour de ce voyage, après avoir vécu plusieurs semaines au fin fond de la jungle avec une peuplade, etc., j'ai complètement changé de voie. Voilà, j'ai arrêté mes études du jour au lendemain et j'ai commencé à me former à diverses choses. Je suis devenu prof de yoga, je suis parti à ma première vipassana, c'était l'année suivante, en 2001. Donc, il y a eu toute une série ensuite. J'ai comme libéré mon espace, j'ai comme libéré ma vie de toutes les contraintes, disons, liées à ma future profession, contraintes professionnelles, etc. Et je me suis complètement dédié au spirituel suite à ce voyage au Mexique. Donc, ça a été un grand bouleversement pour moi. Et j'en garde toujours un souvenir ému. Voilà. Et je pense que je vais encore en parler dans de prochains livres, approfondir ce voyage au Mexique, parce que j'y ai vécu des anecdotes assez croustillantes et aussi des passages qui étaient très douloureux, à la limite, je dirais, de mourir, parce qu'il y a eu notamment un passage durant lequel j'ai dû éviter, avec mon petit groupe d'observateurs, là, l'armée mexicaine dans la jungle, et nous nous sommes fait poursuivis par des militaires armés jusqu'aux dents. Enfin, vraiment, c'était... et de revenir de cette expérience, ça m'a vraiment complètement bouleversé. Ouais.
Tu étais un aventurier de l'âme ou de la conscience ? Est-ce qu'on peut distinguer les deux ? Ou est-ce que tu as suivi ton cœur ou tu as suivi ta conscience quand tu es parti au Mexique ?
C'est une bonne question. Je pense que j'ai suivi ma conscience, mais c'est mon cœur qui s'est ouvert. C'est-à-dire que j'étais plutôt dans une démarche de conscience à l'époque. Et l'ouverture du cœur s'est faite petit à petit sur le long terme. Je pense que j'avais une conscience déjà très ouverte lorsque j'étais enfant. Et lorsque j'étais étudiant et lorsque j'ai commencé à m'intéresser justement au bouddhisme, etc. Et le fait de côtoyer ces peuplades, c'est vraiment le rapport à l'être humain et le rapport à ces gens qui vivent d'une manière que j'admire, voilà, qui sont totalement en harmonie avec leur environnement, qui vivent encore dans la survie au jour le jour, ça m'a ouvert le cœur. Donc l'ouverture du cœur s'est faite plus lentement, mais vraiment très profondément. Et je pense que le livre Mère, justement, Et l'aboutissement, en fait, de cette boucle qui s'est ouverte au Mexique. Donc, cette boucle s'est ouverte au Mexique en l'an 2000 et elle s'est, d'une certaine manière, terminée. Enfin, la boucle a été bouclée en 2016 au Pérou, à nouveau dans la jungle et à nouveau en contact avec les peuplades.
Oui, parce que dans le livre Mère, tu reviens, il y a des réminiscences de tes voyages passés, les sources du Gange, la selva, la Candona, et bien sûr l'Amazonie, et quelques passages aussi où tu parles de tes études. C'est ça qui est intéressant, c'est justement, tu livres un peu de toi en même temps que des passages de reconnexion à nous-mêmes spirituels profonds et des passages de reconnexion à notre cœur. Donc ce livre, je ne l'ai pas encore fini. C'est très fort, je pense qu'il faut prendre son temps. Alors, on va revenir, parce que là, je me perds aussi moi-même. C'est tellement riche, toutes ces lectures. Donc, tu rentres du Mexique, tu te formes à la spiritualité bouddhiste, tu pars en Inde, aux sources du Gange. Pourquoi il a fallu que tu ailles aux sources du Gange? Qu'est-ce que tu allais chercher là-bas?
Eh bien... Alors, tout d'abord, pour répondre à ce que tu viens de dire, moi aussi, je me perds dans cette chronologie. Et, oui, non, mais lorsque j'y repense, c'est pour ça que j'ai écrit des livres, en fait, c'est pour un petit peu mettre une sorte de l'ordre, en fait, dans mon passé, quoi. Ça me fait rire. Et en fait, Mère, l'expérience amazonienne de 2016 a été une expérience de mémoire aussi. Et la notion de mémoire est très importante. La mémoire personnelle, c'est-à-dire chacune de nous, chacun de nous porte dans sa mémoire, toutes ces expériences, c'est aussi ce que disent les bouddhistes dans Vipassana, c'est-à-dire que cette mémoire est inscrite dans notre corps. Et en fait, en Amazonie, j'ai eu cette perception de mon passé qui m'a permis de comprendre aussi mon cheminement. Alors, pour reprendre le fil des événements, effectivement, il y a eu donc le Mexique, le retour du Mexique, un changement de vie radical. Et là, j'ai vécu dans un atelier d'artiste pendant 2 ans. J'ai commencé à enseigner le yoga et donc j'ai quitté le milieu académique. J'ai décidé de vivre un petit peu comme un artiste troubadour qui enseigne le yoga. Et là, je suis parti en Inde parce que j'ai toujours eu la sensation qu'il y a une partie de moi qui est très liée à l'Inde. Voilà, une vieille mémoire également. Et j'ai voulu retourner dans ce pays, dans mon pays d'origine. Peut-être qu'historiquement, je pense que du côté de ma mère, il y a une lignée qui doit venir d'Asie, voilà, certainement parce qu'il y a un aspect tzigane, un aspect très, très marqué de ce côté-là. Donc, j'ai voulu retourner en Inde, voilà. Et j'y suis resté une année qui a été entrecoupée par un petit retour en Suisse parce qu'il fallait que je travaille pour gagner quelque argent pour pouvoir repartir. Et ce voyage en Inde, je suis resté dans un monastère pendant plusieurs mois. J'ai voulu parfaire ma pratique du yoga et également Vipassana, voilà, que j'ai pratiqué tous les jours là-bas. Et j'étais arrivé à une sorte d'aboutissement dans ma pratique du yoga, peut-être une forme d'ego spirituel aussi. Et je me suis fait mal, en fait, je me suis fait mal aux genoux à force de forcer dans les postures. Et ça m'a obligé, en fait, il y a eu comme une rupture, en fait, dans ma pratique, dans ce monastère. Et pour me remettre les genoux, c'est-à-dire pour me remuscler, je me suis dit que j'allais partir en randonnée. Et étant donné que j'étais au pied de l'Himalaya et que j'étais avec un petit groupe d'amis que nous sommes rencontrés, en fait, dans cet ashram, nous avons décidé de partir à la source du Gange. Voilà. Et en plus, c'était à l'époque du pèlerinage annuel, et ça, je ne le savais pas. Donc, je me suis retrouvé accompagné par tous les pèlerins, en fait, qui décidaient de monter à la source du Gange. Et là, ce fut une expérience mystique très, très profonde parce que je me suis retrouvé tout seul à la source par un concours de circonstances complètement incroyable. Normalement, on n'est jamais seul en Inde. Hein. Même à 4000 mètres d'altitude, c'est très, très difficile. Et en fait, ce jour-là, je suis parti très tôt le matin du monastère où je séjournais. Et je me suis fait accompagner par un sadhu qui vivait dans une grotte. Donc, c'est très pittoresque et très c'est typique de là-bas, quoi. Et en fait, il m'a indiqué le chemin et je suis parti tout seul à la source du Gange. Je suis arrivé à la source du Gange au moment du lever du soleil. Et le lever du soleil qui touchait exactement la pointe du Shivlingam, qui est un sommet qui est juste au-dessus, qui est juste au-dessus de la source. Donc, il y a vraiment le yin et le yang. Il y a cette source qui est très féminine et il y a ce sommet qui est très masculin. Et en redescendant de cette expérience, ça m'a renforcé dans l'idée que j'allais faire de la spiritualité le centre de ma vie. C'est-à-dire que ça a été comme une libération, le fait de retourner en Inde et de retrouver cette mémoire, de retrouver cette spiritualité du Gange et de l'Inde éternelle. Et en même temps, en redescendant de cette randonnée en solitaire, je me suis dit que j'allais revenir en Europe et faire ma vie dans le spirituel. De quelle manière, je ne savais pas encore, mais c'était vraiment pour moi une sorte d'évidence.
Le sadhu t'a dit quelque chose d'incroyable.
Oui, il m'a dit « Life is a laugh », la vie est un éclat de rire. C'était une situation complètement indienne, c'est-à-dire complètement absurde. C'est-à-dire qu'il y avait cet homme qui était pieds nus à 4000 mètres d'altitude, on marchait sur des glaciers. Enfin, je veux dire, moi, j'étais habillé comme un Suisse en randonnée, en fait, avec mes bottes, avec mes grosses chaussures, avec tout mon attirail. Et lui était juste, voilà, presque nu, en fait, voilà, pieds nus sur... bon. Et en fait, cette présence et ce personnage était tellement... une sorte d'archétype indien, c'est vraiment, pour moi, j'ai eu l'impression de passer quelques instants avec un pur et dur qui vit vraiment dans les grottes, qui est vraiment complètement impliqué dans ce qu'il fait. Et cette phrase, la vie est un éclat de rire, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai souhaité ensuite la mettre dans Mer pour qu'elle fasse son chemin aussi.
Oui, c'est important parce que dans Mer, tu parles de nos ombres, enfin là, on va dire plutôt la forêt amazonienne, parle vraiment de nos ombres. Et quand tu mets des passages comme ça, il faut se rappeler que la vie, elle est joyeuse aussi. Il ne faut pas la prendre trop au sérieux.
Oui, complètement. Parce que l'enseignement de la forêt est un enseignement qui est effectivement assez sérieux. C'est-à-dire que ça rigole pas avec la forêt, en fait. Quoi. Contrairement au sadhu à la source du Gange, la forêt a vraiment un message assez fort à faire passer sur le fait que la destruction est en cours et qu'il faut vraiment l'arrêter. Et le fait de mettre un peu d'humour ici et là et de se souvenir qu'il y a quand même une relativisation, notamment dans la sagesse indienne de l'Inde éternelle, c'est-à-dire une manière de voir les choses avec beaucoup de distance et de considérer les choses comme un jeu aussi. C'est-à-dire ce qui se passe, c'est un jeu universel et dans ce jeu universel, on peut rigoler aussi. C'est important de s'en souvenir. Surtout en ces temps présents que nous sommes en train de vivre également, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier de rigoler.
Tout à fait. Tu fais un grand écart entre les Himalayas, le Shivling, comme tu dis, qui est cette montagne vraiment symbolique de l'Inde. J'ai moi-même été en Inde et puis après en Amérique latine. Et je trouve que l'Amérique latine va être très féminine. Alors qu'au départ, moi, quand je suis allée en Inde, c'est pareil. J'ai eu vraiment un amour infini pour l'Inde. Mother India, je me sentais quand même enveloppée. Mais je trouve que l'Amérique du Sud nous renvoie à notre féminité, à notre puissance féminine, alors que l'Inde, c'est peut-être plutôt le côté quand même aussi masculin et maternel. Enfin, je ne sais pas comment tu pourrais nous décrire ces deux continents.
Mais complètement. Je pense que l'Amérique latine et la Selva Madre en particulier, c'est organique, c'est-à-dire qu'il y a le côté vraiment viscéral. C'est lié à la vie, c'est la source de la vie. Et dans cette source de vie, il y a une sagesse qui est très féminine, qui est une sagesse porteuse d'existence, porteuse de créativité et porteuse de tout ce qui va avec, c'est-à-dire également les choses à régler, les choses à clarifier. Alors que l'Inde, moi aussi, je la trouve... Il y a Mama India, voilà, on parle souvent de Mama India, voilà, il y a le Gange, etc. Mais il y a quelque chose de très masculin dans les spiritualités orientales. Beaucoup de spiritualités orientales ont été... dominé en fait par la pensée masculine, y compris dans le bouddhisme pendant des siècles et des siècles. Donc il y a cet aspect qui est très présent avec voilà une forme, c'est un peu tabou ce que je vais dire là, mais une forme parfois de misogynie aussi, c'est-à-dire que c'est pas facile d'être une femme en Inde et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier lorsqu'on vit en Occident et qu'on idéalise l'Inde. Donc effectivement, il y a une sorte d'équilibre entre ces deux espaces de la planète Terre. Et au Pérou, ce que me montrait la forêt, c'est intéressant, c'est qu'il y a vraiment deux cœurs spirituels sur la planète. Bon, il y en a un troisième qui est en Afrique aussi. Il ne faut jamais oublier l'Afrique. Mama Africa.
Merci, merci de le rappeler.
Mais il y a vraiment cette force qui est très minérale de l'Himalaya, voilà, qu'on retrouve dans le bouddhisme tibétain, etc. Et il y a cette force très viscérale, très végétale qu'on retrouve en Amazonie ou en Amérique latine. Et ces deux forces sont très importantes. Et moi qui suis également, comment dire, un féru du Tao Te Ching de Lao Tzu, il y a toujours cette notion de la montagne et la forêt. C'est le yang et c'est le yin. C'est-à-dire que la montagne, c'est une élévation très verticale, très minérale, très masculine. Alors que la forêt, c'est ce qui se trouve au fond de la vallée. C'est ce qui descend avec l'eau. L'eau qui descend dans la vallée, donc il y a cette notion vraiment de créativité et de vie et de féminité. Donc un zeste d'Inde et un zeste d'Amérique latine, c'est un bel équilibre, je pense, effectivement.
Et vu que tu nous as emmenés sur le continent africain, comment tu définirais le continent africain sans le mettre dans une case, hein, bien sûr, on n'est pas en train de faire ça, mais pour nous aider à mieux happer cette énergie?
Bah, le continent africain, je pense que c'est le rythme de la Terre, c'est l'origine. Et cette origine, elle est magnifique. Et j'ai envie de rendre hommage au continent africain dans un de mes prochains livres. C'est important aussi. Oui, parce que j'y suis allé également. Bon, au nord de l'Afrique, mais j'ai traversé le Maroc à pied, etc., avec un ami à l'époque où nous étions étudiants, justement. Et ça m'a beaucoup marqué. Mais l'Afrique, je trouve intéressant parce qu'en ce moment, elle est un petit peu en train de prendre sa revanche aussi à un niveau politique, à plein de niveaux. Et je trouve ça merveilleux parce que j'adore ce continent. Et le fait de revenir aux origines, et j'en reviens à l'enseignement de la forêt, cette notion de mémoire, cette notion de lignée génétique, cette notion d'ADN, nous ramène à l'Afrique. Et nous sommes tous africains. Voilà, moi j'en suis convaincu, nous sommes tous africains à la base. Et de s'en souvenir aussi, c'est aussi une marque de respect pour ce rythme fondateur, pour cette terre qui nous a vu naître. Et ça m'aime beaucoup d'en parler. Ouais. Je trouve que c'est un continent qui a beaucoup de choses à nous apprendre et qui va fleurir dans le futur, l'Afrique, c'est certain.
J'en suis persuadée aussi. Et ce rythme dont tu parles, est-ce qu'on pourrait parler du rythme du cœur?
Complètement, oui. Oui, bien sûr. Et en plus, géographiquement, elle est située, l'Afrique est située entre les deux. Enfin, il y a vraiment un lien très fort. Oui, bien sûr.
Oh, merci. Bon, on est parti, on s'est éloigné, mais c'est génial et on a vraiment hâte de lire ton livre sur l'Afrique parce que je pense que ça va bien lier tous tes livres. Revenons à Mer. Donc, tu pars avec ta compagne Angéline qui participe vraiment de façon esthétique, belle à tes livres puisqu'elle dessine à chaque fois des dessins merveilleux. Moi, j'adore aussi un des dessins qui est dans Mer où on voit, c'est à la fin du livre, mais on voit cet arbre avec ce soleil qui est la planète et puis les racines. C'est très, très beau. Et vous partiez au Pérou, pourquoi faire?
Eh bien, en fait, Angéline est passionnée d'Amazonie et du Pérou en particulier. Elle y a vécu 2 ans avant notre rencontre. Donc, je la considère vraiment comme, pour moi, c'est un de mes maîtres de chamanisme, Angéline, parce que je lui répète ça assez souvent lorsque nous nous sommes rencontrés. J'ai rencontré une personne qui était au-dessus de moi spirituellement, vraiment, je le dis en toute sincérité, et qui a justement cette force de l'Amérique latine en elle, cette passion et l'art aussi. C'est-à-dire qu'elle a un art très amazonien. Lorsqu'elle dessine ou lorsqu'elle peint, elle se connecte vraiment aux esprits de l'Amazonie ou aux esprits de la nature et ça ressort vraiment dans ce qu'elle retransmet à travers ce qu'elle dessine. Donc Angéline souhaitait retourner au Pérou, voilà, me montrer le Pérou. En fait, moi je partais là-bas pour voir du pays, pas forcément pour des raisons très spirituelles, quoi. Bon, il y avait une diète qui était prévue dans un centre avec des chamans, mais j'y allais sans attente particulière. J'y allais surtout pour accompagner Angéline et pour découvrir la forêt amazonienne que j'ai toujours eu envie de rencontrer, surtout lorsque j'étais enfant et que j'étais justement passionné de biologie et de colibris, etc. Et en fait, une fois arrivé là-bas, dans ce centre avec des chamans, notamment un chaman traditionnel Shipibo, de la vieille école, moi j'aime bien les chamans de la vieille école et c'était important pour moi de rencontrer. Bon, il n'y a pas de hasard, hein. Je me suis retrouvé dans une session où il y avait ce personnage. Eh bien, la forêt a décidé de me parler, voilà, pendant les sessions et d'écrire un livre avec moi. Et ça a donné Mer. Donc je m'attendais pas à écrire Mer. Et c'est peut-être cette spontanéité en fait de cette surprise, arriver là-bas complètement dépaysé, en pleine selva, dans une ambiance totalement différente de ce que nous avions quitté. C'est-à-dire que c'était aussi par rapport à l'année 2015, qui était l'année des attentats en France. Voilà, ça a été une année très tragique, je trouve. Et en fait, avec Angéline, nous avions envie de changer d'air. Début 2016, aller un petit voyage au Pérou, pourquoi pas. Ça faisait plusieurs années que nous n'étions pas partis d'Europe et c'était comme un bol d'air frais pour nous. Et donc, la forêt qui me parle et qui me dit, écoute, on va écrire un livre ensemble. Et dès le premier instant de la première cérémonie avec les chamans, j'ai su que j'allais écrire ce livre.
Mais c'est un livre qui est vraiment très épais. Comment ça s'est passé ton processus d'écriture? C'est ce que tu as écrit quelques passages dans la forêt, mais après, comment ça se passait?
Alors, mon dictaphone, ça a été le. C'est-à-dire que pendant les cérémonies, c'est mon côté un petit peu justement puriste ou un petit peu vieille école, je n'enregistre pas, je ne prends pas de notes en général dans l'action chamanique. Voilà, je respecte l'espace sacré. Mais ensuite, les lendemains de cérémonie, dans mon hamac, et c'est là que le hamac est de retour, évidemment, dans le processus créatif, eh bien, avec mon dictaphone, je répétais les paroles que j'ai entendues pendant les cérémonies, c'est-à-dire les paroles dans ma tête, les paroles de la forêt. Donc, j'ai pris note de l'enseignement de la forêt dans mon dictaphone, d'une certaine façon. Donc, j'ai rempli mon dictaphone d'impressions, de phrases et même d'une certaine structure de livre qui était en train de se construire. J'ai pris quelques notes dans mon carnet également. Et ensuite, c'est de retour en Europe. Alors, à l'époque, nous vivions déjà en Dordogne, dans une maison en location. C'était un espace transitoire. Pendant 3 ans, nous sommes restés dans ce lieu, le temps de nous installer ailleurs. Et ça a exactement coïncidé avec les 3 ans d'écriture de mère où j'ai repris le contenu du dictaphone, tout en maintenant le contact avec la forêt amazonienne tous les matins, en méditant, en me connectant à elle, de manière sobre, hein, sans prendre de plantes, vraiment sous une forme de méditation, de rêverie, ou d'intuition presque. Et c'est comme ça que le livre s'est créé. En 3 ans, petit à petit, avec la structure que j'avais ramenée du Pérou, j'ai ensuite rempli en fait, les pages. Voilà, j'avais les titres de chapitres, j'avais les thématiques. Je me suis également isolé 2 fois dans les Pyrénées, à Cotterêts. Je parle de Cotterêts dans le livre, parce que j'ai fait deux séjours d'un mois en solitaire, en diétant. La diète, c'est le fait d'avoir un certain régime alimentaire, une certaine manière de se comporter. Et en fait, ce processus m'a complètement chamboulé, parce que 3 ans d'écriture, c'est long. Et j'ai dû vraiment réfléchir à chaque mot, à chaque illustration avec Angéline. Ça a été une forme d'écriture accompagnée par les esprits de la forêt, qui m'ont vraiment, chaque mot dans Mer a été sélectionné par la forêt. J'ai dû effacer certains passages, j'ai dû retravailler d'autres passages, j'ai dû ajouter des oublis, enfin, jusqu'à l'instant où j'ai eu la sensation, avec l'accord de la forêt une fois de plus, que le livre était terminé.
C'est un processus créatif, comme un accouchement, mais ça a dû être quand même des phases qui devaient être euphorisantes, mais aussi terribles.
Oui, je crois que... Alors, en tant qu'homme, je pense que j'ai accouché de ce livre, effectivement. Il fallait que j'en accouche pour que je comprenne aussi, étant donné que c'est un livre qui parle beaucoup de féminité, le titre c'est Mère, et moi, en tant qu'homme, il fallait que je comprenne aussi ce que vivent les femmes pour pouvoir en parler. Parce que les femmes sont la clé, en fait, du futur de l'humanité. Voilà. C'est ce que dit la forêt, elle le répète encore et encore dans ce livre. La mémoire des femmes, l'aspect viscéral de la femme, enfin, toutes ces choses-là qui sont sacrées et que la forêt souhaite faire, comment dire, réémerger ou comprendre d'une manière approfondie. Donc oui, ça a été un processus parfois extatique et parfois, notamment dans les chapitres qui traitent de l'obscurité, parce que la forêt ne nous ménage pas, hein, c'est pas bisounours, c'est-à-dire qu'elle parle vraiment, elle parle vraiment de ce qui est, et ce qui est, on a parfois quelques difficultés à l'accepter ou à le voir tel que cela est. Et donc, des hauts et des bas, une espèce de montagne russe pendant 3 ans, effectivement. Mais je suis très, très heureux d'avoir collaboré avec cet esprit-là en particulier, la forêt amazonienne, qui s'est un petit peu atténuée dans ma vie depuis lors. Mais pendant 3 ans, elle a été vraiment présente tous les jours.
Dans ton livre, on ressent cet amour immense qu'elle nous déverse. Et comme tu dis, elle nous renvoie en miroir nos ombres. On travaille beaucoup sur la notion de brouillard. Et là, on se rend compte qu'on est vraiment tout le temps dans le brouillard. Et c'est là où c'est difficile, c'est que c'est cette conscience aiguë de ce qu'on renvoie, ce qu'on va chercher chez l'autre, ce qu'on va chercher au fond de nous, essayer d'enlever ces couches, c'est dur, hein, c'est un travail qui, même moi parfois quand je suis en train de lire ton livre, je baisse un peu les bras, je me dis mon Dieu, mais comment je vais faire? Donc, et les notes d'espoir arrivent avec ces mots qui sont très poétiques, c'est de la poésie pure, et cette phrase qui choque d'entrée en fait quand on ouvre ce livre qui dit: les intentions sont bonnes, mais le cœur n'est pas pur. Et ça revient Exactement. Comme un mantra.
Et tu vois, le fait de t'entendre dire cette phrase, ça me donne des frissons et j'ai presque envie de pleurer parce que ça me rappelle l'instant précisément où j'ai reçu cette phrase. C'était la première cérémonie, ben comme je l'explique dans le livre, et elle a tourné pendant des heures dans ma tête. Il fallait que je comprenne que les intentions sont bonnes en surface. Les intentions sont toujours bonnes en surface. Elles sont toujours relatives à notre persona, où nous en sommes, à nos aspirations. Mais le cœur, notre cœur, c'est-à-dire le générateur de ces intentions, est blessé. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à le connaître. Et nous sommes sur la planète Terre. Alors, c'est un petit peu le constat de la forêt qui est un petit peu un constat tragique lorsqu'on le prend au premier degré, mais il y a toujours une possibilité de s'en sortir. Mais nous sommes une planète de cœur blessé. Et le fait d'être une planète de cœur blessé explique pourquoi, en fait, notre environnement et notre vie sociale et notre. Voilà, notre humanité est dans cet état. C'est-à-dire que les blessures du cœur se sont accumulées, génération après génération, lignée après lignée, événement après événement. Et étant donné que le travail chamanique ou le travail de guérison, qui consiste à nettoyer, en fait, ou à sortir le cœur de ces blessures, n'est plus fait depuis des générations, étant donné que toutes ces choses-là, on les a enlevées de nos vies, on nous les a enlevées, peut-être aussi. Eh bien, il y a une accumulation de souffrance, et cette accumulation de souffrance, elle se déploie dans le monde d'une manière qui n'est pas forcément très, très agréable à observer, quoi. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant, je pense. C'est-à-dire, pour moi, en ce moment, c'est une montée à la surface de la blessure du cœur collective. Voilà, toutes les vieilles mémoires qui ne sont pas digérées, tous les vieux égrégores qui n'ont pas été nettoyés, qui n'ont pas été regardés en face. Parce que c'est vraiment, il y a cette notion de voir avec un V majuscule qui est présente dans le bouddhisme également. Il faut voir les choses pour pouvoir les transformer. Il faut voir l'ombre pour pouvoir la dissoudre. Mais tant que nous ne la regardons pas en face, ben elle continue en fait à squatter notre inconscient collectif et notre cœur. L'enseignement de la forêt est très radical d'une certaine manière, radical dans le sens qu'il nous fait revenir aux racines aussi. Mais il y a vraiment cette notion de maintenant nous en sommes à une étape sur l'histoire de l'humanité, sur le chemin où nous devons chacune de nous, chacun de nous, regarder notre cœur et apprendre à nous connaître vraiment en profondeur, quoi.
Est-ce qu'on peut quand même vivre ensemble avec nos cœurs blessés? On sent que la forêt, elle est vraiment amour et comme tu l'as appelé, c'est notre mère. Donc, quelles que soient ce qu'on fait, nos blessures, ce qu'on fait, elle nous pardonnera toujours. Mais elle veut nous réveiller, elle veut nous secouer, là, ça nous secoue. Mais comment vivre ensemble, même ne vivre que dans sa famille ou dans son couple ou avec ses enfants, avec ses cœurs blessés quand on a pris conscience de ça?
Oui, très bonne question. Tout est là, hein. Parce qu'il y a cette fameuse phrase de Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres, et on va faire quoi de cet enfer, et on va faire quoi de ces autres et de soi-même. Eh bien, c'est là que je fais intervenir justement dans les premiers chapitres du livre la notion de sensibilité, enfin des notions très bouddhistes, c'est-à-dire la réflexivité, c'est-à-dire le fait de commencer par se regarder soi-même dans ses interactions avec les autres. C'est-à-dire qu'on est dans une culture, dans une société où nous regardons souvent les autres, mais soi-même par rapport aux autres. C'est-à-dire que lorsque je suis en colère, je m'observe. Parce que moi aussi, je suis un cœur blessé. Et moi aussi, je travaille tous les jours à nettoyer en fait mes agrégats, comme disent les bouddhistes, c'est-à-dire mes petites blessures qui font que ben, je ne suis pas toujours optimal dans mes relations, je ne suis pas toujours honnête, je ne suis pas toujours dans la bienveillance. Et le fait d'accepter cela, c'est-à-dire le fait d'accepter ses blessures et d'accepter de ne pas être tout le temps cette personne parfaite que l'on souhaite être, ça permet aussi de retrouver une forme d'humilité par rapport aux autres. Et c'est là que la compassion entre en jeu, c'est là qu'elle fait son apparition. C'est-à-dire la compassion, c'est de comprendre que tout le monde vit des choses, tout le monde a son cœur blessé, tout le monde a ses mémoires, y compris la personne que je n'aime pas, y compris la personne qui me fait du mal, y compris la personne qui est violente avec moi. Toutes ces personnes ont également des mémoires, toutes ces personnes ont également des lignées. Aucun être humain sur la planète n'est, comment dire, affranchi totalement de ces notions-là, quoi. Et le fait de comprendre ça et de regarder les autres avec ce regard, ça permet de les aimer tels qu'ils sont. Ça permet aussi d'apaiser les relations. Ça permet d'attendre peut-être moins de perfection de la part des autres et d'être plus dans une forme de bienveillance heureuse. C'est-à-dire que, bah, en fait, c'est très bien comme ça, quoi. Donc, on est dans une sorte de quête de perfection, et ce perfectionnisme spirituel, c'est un piège, je pense. La compassion, ce n'est pas un perfectionnisme spirituel, c'est le fait de comprendre que tout le monde en est là où il en est sur son chemin, et d'accepter ça. Et ça va pacifier nos relations, et ça va nous permettre de mieux nous comprendre, je pense.
Oui, merci. Et c'est pour ça qu'on en vient à Manifeste paradisiaque, parce que on cherche cette perfection partout, mais la nature, les animaux, les végétaux, les minéraux nous donnent cet apaisement en nous disant, mais sois comme tu es, accepte. Et ce manifeste paradisiaque, tu l'as écrit là, je pense, un peu en urgence, non? par rapport à ce qu'on
Absolument.
vit.
Oui, complètement. Bah, c'était aussi un livre qui a été, entre guillemets, commandé par les esprits, c'est-à-dire que c'était pendant le premier confinement, je suis allé me promener et je me suis demandé, OK, comment puis-je faire passer le message en fait de la possibilité d'une forme de paradis sur Terre? Parce que là, on est plutôt en train de vivre l'enfer. Et ce paradis, par quoi va-t-il passer? Et étant donné que je suis passionné de jardinage et que c'est aussi le fait d'avoir rencontré la forêt amazonienne qui m'a donné envie d'approfondir ma connaissance du jardin, parce que lorsqu'on côtoie les peuplades, que ce soit au Mexique en l'an 2000, au Chiapas ou que ce soit en Amazonie, toutes ces peuplades cultivent leur petit bout de terrain. Toutes ces peuplades sont en partie autonomes aussi, alimentairement parlant. Elles font leur chemin, elles sont dans une forme de résilience que je trouve admirable. Et en fait, la permaculture et le jardinage, c'est ce qui nous rapproche le plus de cela en Occident. Et le message du manifeste, c'est que le paradis, c'est un jardin, et que plus il y aura de jardins sur la planète Terre, et plus nous serons connectés en fait à cet aspect paradisiaque de la vie. Donc, c'est aussi une manière effectivement de rendre hommage aux esprits de la nature qui sont dans une perfection et qui sont là pour nous enseigner et qui sont là aussi pour nous consoler et pour nous donner du courage. C'est-à-dire que moi, les journées où je me sens pas très bien, et ça arrive souvent en ce moment, hein, moi, je trouve qu'on vit une période qui est très mitigée, parfois très déprimante et parfois avec quand même des soubresauts de joie, etc. Lorsque je vais jardiner, eh bien, je me sens mieux. Voilà. Lorsque je vais jardiner, ça me ramène à ici et maintenant, ça me ramène aux choses essentielles, ça me ramène à la nature. Et c'est une forme aussi de guérison pour le cœur que de jardiner, je pense.
Alors c'est important de le dire, dans ce manifeste paradisiaque, tu donnes plein d'astuces. Il y a aussi les très beaux dessins d'Angéline. Il y a aussi c'est un traité spirituel, philosophique. Mais tu parles aussi de la possibilité de créer son jardin en milieu urbain, parce qu'on est de plus en plus à vivre quand même dans du béton et les villes sont galopantes. On peut pas tous se réfugier à la montagne, c'est pas possible. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus?
Oui, parce que le paradis, c'est pour tout le monde.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, le paradis, c'est pour tout le
C'est vrai.
monde. C'est pas uniquement pour
Oui.
les personnes qui vivent à la campagne, qui ont un bout de terrain. Et en fait, moi, j'ai vécu dans des grandes villes aussi, dans des métropoles, des mégalopoles comme Londres, sur mon chemin. Et en fait, on peut jardiner chez soi. On peut avoir accès au vivant chez soi. Et je prends l'exemple des graines germées. Je cultive des graines germées depuis des années et des années. Et en ville, on peut très bien se nourrir tous les jours de produits frais qu'on va saupoudrer en fait sur son repas, qu'on va ajouter aux choses qu'on aura peut-être achetées ailleurs. Mais le vivant est disponible partout. Et en 2022, aujourd'hui, il y a plein de techniques qui sont adaptées, que ce soit le jardinage sur un balcon, le jardinage dans des placards, le jardinage. Et même pour les graines germées, il n'y a même pas besoin de placard ou de balcon. C'est vraiment la chose la plus basique à faire, c'est-à-dire un bocal des graines, laisser pousser, etc. Donc dans ce livre, j'ai souhaité inclure la ville parce que la possibilité d'un monde paradisiaque, d'un monde jardiné, elle est également disponible entre quatre murs, effectivement. Et la nature vivante est à notre disposition. Il suffit d'aller acheter. Moi, quand je vivais en appartement, j'avais plein de plantes vertes. J'étais tout le temps entouré de plantes. Et en fait, dans cette espèce de jungle intérieure, on se sent bien aussi. C'est-à-dire que le vivant est partout disponible autour de nous. Il suffit d'aller le chercher.
Se reconnecter, créer des espaces aussi dans les villes où tu dis, c'est vrai que de plus en plus on entend parler de la végétalisation des immeubles, des rues sur les toits, de continuer ce processus qui a commencé il y a quelque temps, en fait, il y a 3-4 ans en arrière.
Oui, complètement. Et je rends hommage aux pionniers de la permaculture et aux pionniers du jardinage bio dans ce livre, parce que, à nouveau, en raison de la mémoire, parce que je fais un travail de mémoire dans chacun de mes livres, j'aime bien rendre hommage aux pionniers, d'une manière générale. Parce qu'il y a eu des personnes avant nous qui ont eu ces idées géniales et qui nous les ont retransmises, et c'est important de les mentionner également. Et donc, oui, en ville, en ce moment, il y a une possibilité de reverdissement que je trouve très belle. Parce que les citadins sont aussi des Africains qui viennent à la base de la forêt, comme nous toutes et nous tous. Nous sommes, voilà, c'est ce que je dis dans En mer. Hein, je fais le lien avec nos origines aussi, je dirais, de primates arboricoles. Et en fait, en tant que primate arboricole, le fait d'être entouré de plantes, le fait d'être entouré d'arbres. Et en ville, il y a des arbres magnifiques dans les parcs qui sont parfois plus majestueux et plus vénérable qu'à la campagne, parce que souvent les forêts en campagne sont exploitées, etc. Il est de plus en plus difficile, malheureusement, de trouver des vieux arbres. Mais dans les grands parcs, comme à Paris ou dans les grandes villes, il y a des arbres qui sont juste prodigieusement spirituels. Et lorsque je vais en ville, lorsque je monte à Paris, par exemple, pour présenter mes livres, etc., je vais toujours me promener dans les parcs, je vais toujours me connecter à ces arbres-là. Et c'est aussi le vivant qui est présent. C'est-à-dire que le vivant est partout présent autour de nous. Donc, il y a de l'espoir et il y a du paradis potentiellement un peu partout, et je trouve ça magnifique. Ouais.
Tu peux revenir à cette notion que le paradis, c'est le jardin ?
Bien sûr. Oui, alors et c'est là que se fait le lien entre mer et le manifeste paradisiaque, parce qu'à la fin de mer, la forêt me parle du sanctuaire en me disant la planète Terre est un sanctuaire et Homo sapiens, l'humanité, est le gardien de ce sanctuaire. C'est-à-dire que notre fonction, c'est de préserver la nature. Voilà. C'est la fonction de... Homo sapiens se demande souvent, et ça fait depuis les débuts de la philosophie en Grèce, etc., qu'on se pose la question, mais quel est le but de notre existence ? Quel est le sens ? Eh bien, la réponse de la forêt amazonienne, c'est que le but de notre existence, c'est de préserver le vivant. Voilà. Nous sommes des jardiniers et nous sommes des gardiens. Et en fait, l'étymologie du mot paradis, j'ai un petit peu fait une petite recherche étymologique sur les origines de ce mot, et en persan, et également en latin, le mot paradis signifie jardin, c'est-à-dire que c'est un espace préservé. Donc, littéralement, le paradis est un jardin. Et le mot jardin est également lié étymologiquement au mot gardien, c'est-à-dire donc paradis, jardin, gardien, tout ça, c'est dans la même lignée étymologique. Et je trouve important de se souvenir que lorsqu'on jardine, on crée du paradis. Littéralement, étymologiquement, historiquement, c'est lié. Et dans la Perse antique, les paradis, les jardins, étaient considérés comme des espaces sacrés dans lesquels on allait se recueillir auprès de la nature, y compris en ville. Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le paradis, c'est un espace préservé, un espace de nature qui peut se trouver également en pleine ville.
Et qui nous permettent aussi de nous reposer de nos cœurs blessés.
Exactement, et parce que la plus grande médecine, c'est la médecine de la nature, bien évidemment.
Eh bien, merci, 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 Laurent. Bon, je le redis, mais lisez tes livres, tous tes livres, parce qu'on n'a pas parlé de fusion. Mais fusion, c'est absolument génial aussi, parce que ça permet de lier la spiritualité, on va dire en conscience, la spiritualité bouddhiste et la spiritualité chamanique, parce que pour toi, les deux vont ensemble, vont de pair. On peut peut-être en parler avant de se dire adieu, d'ailleurs, justement, de ce que tu as voulu relier.
Oui, parce que c'est aussi lié à mon parcours de méditant et à mon parcours chamanique. L'un et l'autre se complètent, et je dirais même que l'un et l'autre est un garde-fou, voilà, pour l'autre. C'est-à-dire que le fait d'avoir l'organicité et l'aspect vraiment viscéral et très terre-à-terre du chamanisme permet de garder les pieds sur terre lorsqu'on médite, lorsqu'on est dans une démarche de purification de la conscience. Et inversement, le fait d'avoir le dharma ou le dhamma, c'est-à-dire l'enseignement du Bouddha, les préceptes, une forme de moralité aussi, une forme d'éthique, une forme de valeur, une forme de raffinement de la conscience, ça permet ensuite de faire un travail au niveau du chamanisme qui est beaucoup plus, je dirais, clarifié et qui est beaucoup plus dans une forme d'éthique également. Donc pour moi, ils sont complémentaires et ils sont même, je dirais, historiquement reliés, étant donné que le chamanisme est très présent dans le bouddhisme. Le chamanisme, c'est l'arrière-arrière-grand-mère de toutes les spiritualités de la Terre, et c'est également valable dans le bouddhisme. Et j'insiste un petit peu là-dessus dans Fusion, parce que pendant des siècles, il y a eu des rivalités entre le bouddhisme et le chamanisme, et même, je dirais, une forme de violence, quoi, presque une guerre en Asie. Et le fait de réconcilier ces deux cœurs, parce que ce sont deux cœurs, bah, ça permet peut-être aussi de réunir dans nos propres cœurs ces deux aspects parfois contradictoires de notre vie, l'aspect transcendé, la transcendance ou l'aspect raffiné du bouddhisme et l'aspect vraiment viscéral et dans la force et la créativité du chamanisme.
Merci, merci beaucoup. Donc, pour conclure, je dirais cultivez votre jardin et mettez-y un hamac pour partir dans les rêveries et observer la poésie de la nature, tout simplement.
Exactement. C'est là, je pense que c'est le meilleur investissement que l'on puisse faire en ce moment, un bon hamac et un petit peu de verdure.
Merci Laurent.
Merci Corinne.
Merci pour votre écoute. Vous avez aimé ? Alors abonnez-vous et n'hésitez pas à partager. À très vite sur Écoute Voyageuse.